il est l'heure de commencer, il est temps de commencer. Et puis comme vous le savez, c'est vrai que dans cette salle, nous sommes très pris par le temps. Nous avons juste une heure et demie. Et ce soir, eh bien, nous sommes très heureux. Un micro ? Et ce soir, donc, nous sommes très heureux d'accueillir Julienne Trey, qui a commencé sa carrière en tant que conservatrice au château de Versailles en 2007, où elle était en charge des peintures et pastels du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, donc, Julienne Trey travaille au cabinet des estampes du musée du Louvre depuis 2013 en tant que conservatrice pour les dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle a été commissaire de plusieurs expositions et je ne doute pas que vous êtes nombreux à en avoir découvert certaines en France et à l'étranger. Donc le serment du jeu de paume quand David réécrit l'histoire en 2008 au château de Versailles, Madame Élisabeth, une princesse au destin tragique en 2013 au domaine de Madame Élisabeth, et plus récemment, Juliette Trey a été commissaire de l'exposition Bouchardon, une idée du beau au Louvre, qui s'est terminée en décembre 2016. Donc ce soir, Juliette Trey est venue nous parler de son ouvrage La mode à la cour de Marie-Antoinette, paru en 2014. Et la conférence de ce soir, je dois dire que nous aurions voulu l'organiser bien plus tôt, mais malheureusement, la charge de travail de Juliette Trey en vue des expositions en 2016 ne le permettait pas. Donc, si vous ne connaissez pas, découvrir cet ouvrage après la conférence ici, et éventuellement aussi solliciter une dédicace si le temps nous reste. Et je laisse donc la parole à Juliette Trey.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de revenir à Versailles, d'être parmi vous ce soir. Donc effectivement, cette conférence, elle est née en lien avec ce livre. Donc je vous présente rapidement, il est très imposant, il est très, très illustré. Et ce livre lui-même, il est né à l'occasion de l'exposition Madame Élisabeth, que vous aviez peut-être visitée au domaine de Madame Élisabeth à Montreuil. Pour cette exposition, j'avais fait un travail de recherche en lien avec le musée des arts décoratifs et le musée Galera, qui conserve tous les deux des collections de costumes anciens. J'avais cherché des costumes qu'aurait pu porter Madame Élisabeth et ses amis à Montreuil. Donc je m'étais un peu écartée de la cour, hein, parce que vous savez que Montreuil, c'est pas exactement Versailles. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce travail avec mes collègues conservateurs chargés de textile. Hein. Mon domaine à Versailles, c'était la peinture du XVIIIe siècle. Et Béatrix Saul, qui était donc jusqu'à très récemment directrice du château de Versailles, m'avait alors demandé si j'étais tentée par l'écriture d'un ouvrage sur la mode à la cour de Louis XVI. Alors mon ouvrage s'appelle finalement « La mode à la cour de Marie-Antoinette » parce que vous en conviendrez, c'est plus séduisant. Mais c'est bien à la cour de Louis XVI dont il s'agit. Alors aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas pouvoir balayer tout cet ouvrage avec vous, bien sûr, nous avons manqué de temps. Et j'ai donc décidé de vous parler plutôt de la manière dont on s'habille à la cour, de la manière dont la mode joue un rôle dans le cérémonial de cour. On verra que c'est extrêmement important. Et puis, j'ai été un peu partiale, alors je m'excuse auprès des messieurs parmi vous, j'ai préféré la mode féminine. Alors après, j'ai eu des regrets, donc j'ai rajouté un petit peu de mode masculine dans ma conférence, mais ce sera surtout la mode féminine que nous aborderons ce soir. Alors, en préambule, je vous lis cette définition de la mode qu'on peut lire dans le dictionnaire de Trévoux qui date de 1771. « Mode se dit plus particulièrement des manières de s'habiller, de s'ajuster, d'enjoliver les habits et les personnes de l'un et l'autre sexe. » Et puis ensuite, Trévoux cite des exemples. « Les Français changent tous les jours de mode, les étrangers suivent la mode des Français. » Alors, cette citation, elle nous permet de voir que à Versailles, plus particulièrement, la mode, ce n'est pas forcément ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas de suivre forcément des tendances, mais c'est vraiment des manières de s'habiller et une manière de faire jouer le vêtement de manière très codifiée au sein de la cour. Donc, c'est vraiment ce que nous allons aborder ce soir, même si, bien entendu, vous verrez qu'il y a aussi des tendances déjà au XVIIIe siècle. Alors, comment travailler sur la mode au XVIIIe siècle? Ce n'est pas si simple parce que nous manquons de sources. Alors, je vous présente ici un détail d'une estampe qui est tirée du monument du costume de Moreau le Jeune. Le monument du costume, c'est une série qui est apparue entre 1777 et 1783. Et ces estampes présentent de manière extrêmement scrupuleuse le costume et la décoration intérieure. Et beaucoup de ces estampes, en fait, représentent pas forcément des intérieurs versaillais, mais des intérieurs très proches de ceux qu'on a pu connaître à Versailles, et aussi des personnages de la noblesse. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant. L'idée de Moreau le Jeune, c'est de nous faire suivre la vie d'une jeune femme et d'un petit maître depuis son réveil jusqu'au coucher. Donc on voit vraiment toutes les pratiques du costume. C'est une série relativement luxueuse. Alors ici, je vous montre un autre détail. On voit une jeune danseuse qui est présentée à un monsieur à l'opéra. Il y a une dimension un peu licencieuse aussi dans ces estampes, même si aujourd'hui ça me paraît tout à fait chaste. Et puis, il y a déjà l'ancêtre de Elle ou de Vogue, la Galerie des modes et costumes français. C'est le plus ancien journal de mode français, qui a été publié de 1778 à 1787. Alors, plusieurs dessinateurs y contribuent. Et cette galerie des modes, elle est extrêmement précieuse, puisque je vous présente ici seulement une planche, mais elle est agrémentée aussi de commentaires qui listent les tenues à la mode, mois par mois. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a également des éléments sur le mobilier. Donc c'est la mode conçue comme une manière de vivre en réalité. Alors, parmi les autres sources que vous connaissez peut-être, il y a bien sûr les sources d'archives et la fameuse Gazette de Marie-Antoinette, qui est relativement connue, dont je vous présente une planche. Donc, cette Gazette de Marie-Antoinette, elle est conservée aux Archives nationales, dans la fameuse armoire de fer, qui, comme vous le savez, conserve les pièces les plus précieuses de l'histoire de France. Cette gazette, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement quel a été son usage. Vous voyez qu'il s'agit d'échantillons de tissus qui ont été découpés avec des annotations. On pense qu'il s'agit d'un ouvrage à usage comptable. On imagine, ça fait partie des hypothèses qu'on se pose encore, on imagine qu'à chaque fois qu'une robe a été commandée pour la reine, un échantillon de tissu a été découpé et ça permet ensuite de régler les fournisseurs. D'autres hypothèses pensent qu'il s'agit aussi de ne pas recommander plusieurs fois la même robe, d'ajuster les couleurs et les tenues, mais on manque de documents pour savoir exactement comment cette pièce d'archive était utilisée. Et puis, si vous avez vu l'exposition Madame Elisabeth, vous avez pu découvrir une autre gazette, beaucoup moins connue, la Gazette de Madame Elisabeth, qui est plus tardive puisqu'elle date de 1792, donc nous sommes aux Tuileries. Et vous voyez qu'en 1792, Madame Elisabeth, sur le même principe, ce sont des échantillons de robes qu'elle a portées, Madame Elisabeth privilégie les rayures. Donc c'est très très frappant sur cette gazette qui est également donc, conservée aux Archives nationales. Et puis de manière plus large aux Archives nationales, dans la série O1, qui est la série qui correspond à la Maison du Roi, on trouve de nombreux détails très précieux sur la mode, que ce soit pour le roi, pour la reine, ou même pour la famille royale à Versailles. Alors nous voici avec Gauthier d'Agoty dans la chambre de la reine, une image totalement fantasmée et inventée, comme nous allons le voir, pour parler de la manière dont on habille la cour. Alors une des sources que je n'ai pas citées, ce sont les vêtements eux-mêmes, et vous vous demandez peut-être pourquoi. Parmi ces sources, nous n'avons pas de vêtements. Et bien tout simplement, ces vêtements ont été systématiquement détruits. Au XVIIIe siècle, on ne parle pas de destruction, on parle de vêtements réformés. Pour des raisons de bienséance que vous imaginez sans doute, il est totalement inenvisageable que l'entourage de la famille royale puisse porter des vêtements que la famille royale a portés. Et la famille royale ne va pas reporter indéfiniment les vêtements. Donc qu'advient-il de ces vêtements une fois qu'ils ont été suffisamment portés, c'est-à-dire quelques semaines? Et bien au bout de quelques semaines, ces vêtements sont donnés au personnel de la maison du roi ou de la reine, comme des cadeaux, des dons honorifiques. Mais ces membres de la maison du roi ou de la reine, ou de toutes les autres maisons, je ne décline pas tous les membres de la famille royale, et bien ces membres ne peuvent pas reporter tels quels les vêtements. Ils ont donc l'obligation de les retailler, de les redécouper. Et bien souvent, parce que c'est plus simple, ils les revendent à des fripiers ou ils les donnent à des églises. Et aujourd'hui, les quelques textiles provenant de la famille royale qu'on a pu identifier, ça fait partie des choses sur lesquelles j'avais travaillé pour Madame Elisabeth, ont été souvent identifiés au sein d'ornements liturgiques dans les églises. Et ils sont donc complètement méconnaissables. Malgré tout, vous vous souvenez peut-être en 2008 de l'exposition Faste de Versailles qui avait été organisée par Pierre Arizzoli, une exposition magnifique sur le costume de cour. Mais vous vous souvenez peut-être aussi que Pierre Arizzoli avait pu évoquer ce costume de cour grâce à des prêts de musées étrangers. Donc c'était vraiment les cours européennes qui nous permettaient de comprendre le système français, mais finalement ces costumes français, on les connaît pour ainsi dire pas. Donc ce soir, je vais vous montrer beaucoup de peintures, de dessins ou des costumes équivalents, mais malheureusement rien qui est véritablement appartenu à la famille royale. Alors nous allons voir maintenant comment s'habille la reine de manière très concrète. L'habillement de la reine est géré par le service de la garde-robe qui fait partie de la maison de la reine. Ce service de la garde-robe a été dirigé par la duchesse de Mailly, puis à partir de 1781 par Madame d'Ossin, et tous deux portent le titre de Dame d'Atour. La Dame d'Atour ne travaille pas seule, vous l'imaginez. Elle a sous ses ordres plusieurs femmes de chambre, des filles de garde-robe, des couturières, des lingères et des valets. La comtesse d'Ossin a été nommée Dame d'Atour en 1781 parce que, ça fait partie des choses dont on parle souvent quand on parle de Marie-Antoinette et la mode, parce qu'il y avait beaucoup de gaspillage, beaucoup de dépenses. Et son rôle, c'était d'essayer de resserrer un petit peu, de reprendre en main la comptabilité du service de la garde-robe. Elle a eu beaucoup de mal et on peut rejeter la faute sur Rose Bertin, même si ce n'est bien sûr pas si simple, hein, je vous reparlerai de Rose Bertin dans un instant, une des fournisseuses de la reine. Parce que Rose Bertin, en fait, a ignoré complètement le système de la garde-robe. Elle n'a pas travaillé pour la Dame d'Atour, mais elle a travaillé directement pour Marie-Antoinette. Donc il y avait une sorte de système parallèle qui doublait les commandes officielles de la Dame d'Atour, qui a fait que les dépenses se sont multipliées. Alors parmi ces femmes de chambre, vous connaissez sans doute Madame Campan, dont nous voyons ici un très joli portrait par Bose, hein, un portrait au pastel qui est conservé dans les collections du château. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cet extrait des mémoires de Madame Campan, qui est extrêmement fameux, hein, que vous connaissez sans doute déjà, qui décrit le rituel de l'habillement de la reine. L'habillement de la princesse était un chef-d'œuvre d'étiquette. Tout y était réglé. La dame d'honneur et la dame d'Atour, toutes deux, si elles s'y trouvaient ensemble, aidées de la première femme et de la deux femmes ordinaires, faisaient le service principal. Mais il y avait entre elles des distinctions. Et donc vous allez voir que tout est très codifié, puisque chacune a un rôle extrêmement précis dans l'habillement. La dame d'Atour passait le jupon, présentait la robe. La dame d'honneur versait l'eau pour laver les mains et passait la chemise. Et voilà que ça se complique, puisque les membres de la famille royale ont aussi un rôle à jouer dans cette cérémonie. Lorsqu'une princesse de la famille royale se trouvait à l'habillement, la dame d'honneur lui cédait ses dernières fonctions. Donc la dame d'honneur, qui normalement passe la chemise à la reine, doit donner la chemise à une princesse si elle assiste à l'habillement. Chacune de ces dames observait scrupuleusement ses usages comme tenant à des droits. Alors, Madame Campan nous raconte une anecdote. Un jour d'hiver, il arriva que la reine, déjà toute déshabillée, était au moment de passer sa chemise. Je la tenais toute dépliée. La dame d'honneur entre, se hâte d'ôter ses gants et prend la chemise. Madame Campan donne la chemise à la dame d'honneur. Vous vous souvenez que Marie-Antoinette attend qu'on l'habille. On gratte à la porte, on ouvre, c'est Madame la Duchesse d'Orléans, ses gants sont ôtés, elle s'avance pour prendre la chemise. Donc, il va falloir lui tenir la chemise. Mais la dame d'honneur ne doit pas la lui présenter. Problème de protocole, hein, de bienséance. Elle me la rend, je la donne à la princesse, on gratte de nouveau, et c'est Madame, comtesse de Provence. Préséance de la comtesse de Provence sur la duchesse d'Orléans, la duchesse d'Orléans lui présente la chemise, la reine tenait ses bras croisés sur sa poitrine et paraissait avoir froid, on imagine, hein, nous sommes donc en hiver. Madame voit son attitude pénible, se contente de jeter son mouchoir, garde ses gants et en passant la chemise décoiffe la reine, qui se met à rire pour déguiser son impatience, mais après avoir dit plusieurs fois entre ses dents « C'est odieux, quelle importunité !» Et c'est vrai que dans sa correspondance, avec sa mère notamment, Marie-Antoinette se plaint à de nombreuses reprises de ce protocole qu'elle trouve extrêmement rigide. Alors je vous fais un clin d'œil avec le film de Sofia Coppola, que vous avez peut-être vu, où cette scène a été très bien mise en image par Sofia Coppola, où on voit très bien l'actrice qui joue la reine grelotter en attendant qu'on lui enfile sa chemise. Alors, Madame Campan parle également de Rose Bertin, donc cette fameuse fournisseuse de la reine, et elle explique que petit à petit, Marie-Antoinette en a assez de ce cérémonial, qu'elle l'abolit, et que lorsqu'elle était coiffée, elle saluait les dames qui étaient dans sa chambre, et suivie de ses seules femmes, elle rentrait dans un cabinet où se trouvait Mademoiselle Bertin, qui ne pouvait être admise dans la chambre. C'est dans ce cabinet intérieur qu'elle présentait ses nouvelles et nombreuses parures. Alors ce cabinet intérieur, vous le connaissez bien, vous qui êtes des amis de Versailles, c'est le cabinet doré, je vais vous montrer une photo après la restauration. Et voilà pourquoi l'image de Gautier d'Agoty est totalement invraisemblable, puisque ici nous sommes donc dans la chambre de la reine, vous reconnaissez le serre-bijoux et les décors de boucher. Et ici, Gautier d'Agoty a représenté Rose Bertin. Vous voyez qu'il a représenté de manière assez ingrate, on verra un portrait plus flatteur de cette marchande plus tard. Vous voyez qu'elle est en train de déballer des plumes dans un carton à chapeau. Mais Rose Bertin n'avait absolument pas accès à la chambre de la reine. Donc c'est vraiment une représentation de fantaisie. En réalité, Gautier d'Agoty se représente ici, au premier plan, en train de faire le portrait de la reine. Et pour lui, c'est une manière de montrer qu'il est au même rang que les fournisseurs les plus intimes de la reine. Mais c'est bien sûr le fruit de son imagination. Alors, je vous ai parlé de ces vêtements qui étaient réformés. Pour vous donner un ordre d'idée, voici ce que la dame d'Atours devait commander pour chaque trimestre. Chaque trimestre, la reine, l'année est divisée en trois sections, et pour chacune de ces sections, donc pour chacun de ces, ce sont donc pas des trimestres mais quatre mois, la dame d'Atours doit commander 12 grands habits, 12 robes riches sur grand panier et 12 petites robes de fantaisie. Alors pour l'instant, j'imagine que ça ne vous dit rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Les grands habits, ce sont les habits les plus prestigieux, se comportent aux plus grandes fêtes, aux plus grandes cérémonies, pour Pâques, pour la Saint-Louis en été, pour la Toussaint, ou encore pour le jour de l'an, et bien sûr pour les baptêmes, les grands dîners. Les robes riches sur grand panier, je vous en reparlerai également, ce sont les robes qu'on appelle à la française, ou à la fin du règne, à la turque. Ce sont des robes qui sont aussi des robes d'apparat, mais beaucoup moins cérémonielles que le grand habit. Et puis, dans un registre plus intime, on descend encore d'un degré à chaque fois, les petites robes de fantaisie, ce sont des robes à la polonaise, des robes en chemise, je vais vous en parler également, qu'on porte plutôt pour le jeu ou pour les petits soupers. Et donc, toutes ces toilettes sont réformées tous les trimestres, donc en réalité tous les quatre mois, sauf quelques robes d'intimité que la reine, en réalité, ne porte pas dans un contexte de représentation. Et puis cette reine, elle s'habille, bien sûr, plusieurs fois par jour. Elle ne porte pas la même tenue pendant toute la journée. Alors elle doit mettre le grand habit pour la messe, ou au moins une robe à la française, et aussi pour le dîner en public, hein, c'est-à-dire notre déjeuner. L'après-midi, elle peut mettre ce qu'on appelle un déshabillé, une tenue d'intérieur, pour autant qu'elle reste dans ses petits appartements. Le soir, elle devra mettre une robe parée, c'est-à-dire au moins une robe à la française, ou une robe plus simple, comme une polonaise, pour les petits appartements. Vous voyez qu'elle se change au moins 3 ou 4 fois dans la même journée, et à chaque fois, c'est un cérémonial extrêmement lent et compliqué, puisque ces robes ne s'enfilent jamais d'une seule pièce. Elle a toujours besoin d'aide pour s'habiller. Donc ça l'occupe énormément. Alors, pour être plus précise sur ces robes, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et je commence par les robes les plus simples, celles qu'on ne porte que dans l'intimité, du moins quand on est à la cour. Nous allons donc parler de la robe en chemise. Cette robe en chemise, Le Cabinet des Modes, qui est un journal concurrent de la Galerie des Modes, en 1786, la qualifie de « informal wear ». C'est l'anglomanie à la mode, hein, donc « informal wear », c'est cette mode informelle, qui qualifie donc la robe en chemise. Elle est réservée au boudoir, aux appartements privés, aux promenades dans le parc, mais en aucun cas, la reine ne peut apparaître en public avec cette robe. Alors ici, je vous montre la seule robe en chemise du XVIIIe siècle qui est conservée. Elle se trouve à Manchester. Vous allez la retrouver ensuite sur les tableaux dans un instant, et ça, je suis sûre qu'elle est très familière pour vous. Donc, elle se caractérise par l'absence de corset. Vous voyez ses manches bouffantes qui s'arrêtent au coude. Elle a surtout cette large collerette autour du décolleté. Elle est fluide et elle est en coton. Donc ça, c'est aussi très important, en coton ou en mousseline de lin. Ce sont des matières nouvelles à la fin du XVIIIe siècle qui ont pu être développées en lien avec le commerce avec l'Angleterre, avec les colonies aussi, mais qu'on connaissait déjà, du moins pour le lin, mais pour les sous-vêtements. Alors voilà pourquoi c'est assez problématique de porter le coton en public, c'est que le coton est associé vraiment à un sous-vêtement ou à un vêtement d'intérieur. Alors, dans l'exposition Madame Elisabeth, j'avais pu présenter cette autre robe en chemise qui est conservée à Jouy-en-Josas, donc juste à côté d'ici, au musée de la toile de Jouy, qui est un petit peu plus récente, puisqu'elle date de la toute fin du XVIIIe siècle, peut-être début XIXe, et qui a appartenu à Madame Oberkamp. Et vous voyez qu'à la fin du XVIIIe siècle, la collerette a disparu et qu'on n'a plus des manches bouffantes, on a des manches collantes, donc qui descendent jusqu'au poignet. Vous voyez que cette robe, elle a aussi évolué avec la mode. Donc on la voit là en situation, dans la vitrine. Et ici, une situation encore plus séduisante avec ce portrait de Madame du Barry. Madame du Barry est la première à se faire représenter en robe en chemise en 1780 par Elisabeth Vigier-Lebrun. Vous retrouvez la collerette, les manches sont assez longues, et cette robe, on l'associe volontiers avec un chapeau de paille, et quelque chose de très campagnard, naturel, qui est en complète symbiose avec les écrits de Jean-Jacques Rousseau au même moment, l'idée d'un retour à la nature, quelque chose de pur et simple. Alors je vous accorde que Madame du Barry, en 1781, ne fait pas partie des familles royales. En revanche, la princesse de Lamballe est plus proche de la reine, et en 1782 se fait représenter à son tour également par Vigier-Lebrun en robe en chemise. C'est un tableau qui a été acquis en 2011. C'était une acquisition que j'avais suivie à Versailles. Je vous épargne toutes les représentations de femmes de la cour en robe en chemise. J'ai juste choisi une petite sélection. J'aime beaucoup aussi la comtesse de Provence. Vous voyez que la robe est quasiment la même. Vigier-Lebrun manque un peu d'inspiration. Donc ici avec un ruban bleu, mais le ruban peut changer de couleur. Il est souvent rose, bleu ou vert. En 1783, et donc le début des années 1780, c'est vraiment l'explosion de ces robes en chemise dans ces représentations. Et peut-être connaissez-vous cette histoire fameuse de la reine qui se fait portraiturer à son tour pour le salon de 1783 par Elisabeth Vigier-Lebrun. Elle se fait représenter elle aussi en robe en chemise, mais exposer le portrait de la reine au salon, qui est cette exposition qui a lieu au Louvre, devant laquelle des centaines et des centaines de visiteurs défilent, c'est extrêmement provoquant. C'est la place publique. Donc, quand Elisabeth Vigier-Lebrun a présenté son portrait de Marie-Antoinette en robe en chemise au salon, ça a provoqué un véritable scandale, puisqu'on jugeait totalement indécent que la reine apparaisse devant son peuple en robe en chemise. Donc, ce qui pouvait être toléré pour certaines dames de l'entourage, certaines dames de la cour, était inadmissible pour la reine. Et voilà pourquoi Vigier-Lebrun a dû exécuter en catastrophe ce portrait, dont une réplique est conservée aujourd'hui à Versailles, hein, au Trianon. Petit Trianon. Elle a repris, Vigée Lebrun a repris exactement le portrait de la reine, mais en remplaçant la robe en chemise par une robe de soirée. Voilà jusqu'où va le symbole du vêtement. Je pense que c'est très important de se rendre compte qu'une tenue pouvait provoquer un tel scandale au XVIIIe siècle. Je pense que c'est aujourd'hui toujours le cas, hein. Mais c'est important de penser à ça et de voir la portée symbolique qu'ont ces vêtements. Alors après cette robe en chemise, je vous parle rapidement de la polonaise. Je vous présente des tableaux qui n'ont rien à voir avec Versailles, mais dans lesquels on voit bien la polonaise. Vous voyez cette dame ici. On voit que ça... Alors, pardon, parce que je n'ai pas décomposé la robe pour vous. J'y reviendrai plus tard, mais on va appeler cette partie la jupe, le jupon. Vous voyez ma souris qui bouge. Et par-dessus, elle enfile ce qu'on appelle un manteau de robe, donc les manches. Et puis, cette partie bouffante derrière sont solidaires, ça s'appelle le manteau. Et vous voyez que ce manteau est retroussé ici avec un nœud. La polonaise, c'est une robe qu'on peut retrousser, c'est une robe qu'on appelle une robe à transformation. Et puis, toujours sur ce tableau de Trinquès, Trinquès c'est un artiste qui aime beaucoup la mode et qui fait des représentations fascinantes des vêtements. Vous remarquez que sur cette polonaise, vous voyez qu'elle a été retroussée là, ici aussi, et vous remarquez qu'on voit les chevilles. Extrêmement séduisant et audacieux hein, de montrer les chevilles à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est bien ça qui caractérise la polonaise. Donc ces transformations, avec trois pans retroussables à l'arrière, la possibilité, pas la possibilité, le fait de laisser voir les chevilles, ce qui veut dire en réalité que c'est qu'il n'y a pas de traîne, que la robe est beaucoup plus légère, on peut se déplacer beaucoup plus facilement. Et il n'y a pas de panier, puisque vous verrez qu'avec le grand habit, il y a des paniers, mais seulement ce qu'on appelle une tournure, c'est-à-dire un rembourrage qu'on accroche à la taille et qui est finalement relativement pratique et agréable. Alors notre chère Madame Elisabeth aussi s'est fait représenter en polonaise. Vous devinez ici la polonaise, c'est également un tableau qui est dans les collections de Versailles. Et vous voyez la reine ici, dans la galerie des glaces, vous connaissez la galerie des glaces avec les trophées, sur cette estampe qui date de 1777, donc la robe polonaise apparaît assez tôt, hein, vraiment dans les années 1770. Et vous voyez à côté de Marie-Antoinette, ses belles-sœurs, la comtesse de Provence et la comtesse d'Artois. Elles sont toutes en polonaise, donc elles ont leur jupe. Le manteau qui s'agrafe devant, on cache l'agrafe avec un nœud, un gros nœud cache une agrafe. Donc vous voyez que c'est comme une sorte de veste qui se prolonge par une sorte de grosse basque qui viendrait derrière, hein, qui est donc le manteau. Et devant, je serai plus précise tout à l'heure, on appelle cette partie le corps. Donc même s'il s'agit d'une robe relativement détendue et d'intérieur, vous voyez que Marie-Antoinette peut se montrer avec ses belles-sœurs dans une situation relativement officielle dans la galerie des glaces. Et puis, une dernière de ces robes relativement détendues, c'est la robe à la turque. Alors elle, ici c'est une illustration du magasin des modes, vous voyez qu'il y a une traîne, donc elle est quand même un peu encombrante. Et ce qui nous permet de la reconnaître, ce sont ces petits manchons. Donc le manteau, en fait, a des manches qui s'arrêtent très courtes ici, et des manches ici qui sont liées au corps, dans des tissus contrastants. On l'appelle la robe à la turque parce qu'on imagine qu'elle évoque l'exotisme de l'Orient. Et dans cet exotisme, il y a l'idée qu'on ne s'habille pas d'une seule couleur et qu'on marie les couleurs pour contraster. Donc voilà pourquoi la robe à la turque contraste ces effets de couleur et à ces petits mancherons qui s'arrêtent haut sur les épaules. Alors on a beaucoup parlé des dépenses de la reine. comme je vois que je risque d'être prise par le temps, parce que j'ai peut-être été trop ambitieuse, parce que j'avais envie de parler de beaucoup de choses, je vais passer plus rapidement sur ces dépenses. Et donc juste pour vous dire que ces dépenses sont très soigneusement listées, et que si la reine a effectivement dépensé beaucoup d'argent, on sait exactement combien d'argent elle dépense chaque année, elle n'est pas la seule à être dépensière. Les tantes du roi, Madame Adélaïde, Madame Victoire, dépensent en réalité au moins autant chaque année que Marie-Antoinette, voire même davantage. Alors, et donc, voici ce portrait de Rose Bertin dont je vous parlais tout à l'heure. Cette fameuse Rose Bertin, elle fait donc partie des fournisseurs de la reine. Vous voyez qu'elle est quand même plus jolie que ce qu'on montre Gauthier d'Agoty. Elle fait véritablement partie des privilégiés. C'est à l'origine une couturière picarde qui s'établit à Paris comme marchande de mode. Je vais vous expliquer ce qu'est marchande de mode. Elle a un magasin rue Saint-Honoré qui s'appelle le Grand Mogol. Le Grand Mogol, c'est le nom d'un diamant de 280 carats qui avait été découvert aux Indes. On la connaît comme fournisseuse de Marie-Antoinette, mais elle a aussi fourni des ornements pour la comtesse du Barry, la duchesse de Chartres, qui, en réalité, serait celle qui l'a présentée à Marie-Antoinette. Pourquoi ai-je dit des ornements ? Eh bien parce qu'au XVIIIe siècle, comme vous le savez, on est encore sous le régime des corporations, et ces corporations régissent très précisément le champ des chaque profession. Rose Bertin, elle est marchande de mode, mais elle ne peut pas coudre, ni même vendre des robes. Elle peut seulement les orner. Celui qui coud les robes, c'est le tailleur. Tailler, c'est vraiment lui qui a le droit de découper. La marchande de mode n'a absolument pas ce droit. C'est aussi le tailleur qui fabrique les corps pour les robes. On parlera des corps dans un instant. Et donc, en 1785, dans l'ouvrage de Jean-Marie Roland de La Platière, Manufacture, Art et Métier, il nous a expliqué que la marchande de mode est celle qui dispose et vend tous les petits objets qui servent à la parure des femmes particulièrement. Le taffetas, la gaze, la blonde c'est une dentelle, les agréments, les rubans de toute espèce, les plumes sont les matières qu'elle emploie. Son art n'est de fabriquer aucune chose, donc la marchande de mode ne fabrique rien. Il consiste à former ingénieusement des résultats nouveaux, des ornements variés et gracieux de toutes les productions légères des autres arts, et particulièrement de celles du passementier. Donc en réalité, la marchande de mode fournit ce qu'on appelle les enjolivements, tout ce qui va agrémenter la robe. Elle fournit aussi des accessoires, bonnets, chapeaux, fichus, mantelets, mais rien qu'elle ne fabrique elle-même. Donc le tailleur va faire la robe, la déposer chez la marchande de mode, qui va coudre pour la décorer des rubans, des fleurs artificielles, des paillettes, mais ce ne sera pas son travail de faire la robe. Donc c'est intéressant quand même de rappeler que Madame Bertin n'est pas couturière. Alors je vais vous parler maintenant rapidement des saisons à la cour, puisque cette mode elle est aussi rythmée par le passage du temps, et chaque saison est liée à une matière ou à des couleurs. L'hiver, c'est bien sûr, mais comme aujourd'hui encore, hein, la saison du velours et de la fourrure très volontiers associées. Donc la robe d'hiver, par excellence, mêle le velours rouge et la fourrure brune. Et ce qui m'a frappée en travaillant sur la mode, c'est qu'on voit déjà Marie Leszczynska, dans ce portrait par Natier, en 1748, porter une robe que Marie-Antoinette reprend presque à l'identique pour son portrait par Vigée Lebrun, en 1787. Donc presque 40 ans plus tard, Vigée Lebrun reprend les codes d'une mode qui semble en fait intemporelle. Alors on peut aussi dire qu'au contraire, elle veut se placer dans l'héritage de Marie Leszczynska, et donc il y a toute une symbolique là aussi derrière. Vous voyez le détail avec le manteau de robe dont le bord est orné de fourrure. Et puis ce velours, on le retrouve aussi sur un autre portrait de la reine par Vigée Lebrun, qui date de 1788, donc avec un manteau bleu cette fois. Et je vous montre ce détail où on voit vraiment le rendu du velours par l'artiste. Et là encore, une robe de cour qui est publiée dans une gazette de mode à la Galerie des Modes sans doute, vous voyez que c'est un grand habit qui est orné de fourrure. Donc tout le devant de la jupe a été brodé de fourrure, et ça c'est vraiment le travail de la marchande de mode. Alors au printemps, on porte plutôt du satin. Le satin, c'est une soie plate, douce, moelleuse, lustrée. Un satin qui remporte un tel succès qu'en 1780, les fabricants des soieries lyonnaises, qui fabriquaient des tissus de soie beaucoup plus luxueux que le simple satin, se sont plaints à Jacques Necker, le directeur général des finances de Louis XVI, pour lui demander qu'au moins une fois par semaine, la reine porte leurs étoffes pour soutenir leur production de soieries. Et Necker leur a répondu très sagement qu'on ne peut gêner le goût des consommateurs et encore moins celui de la reine. Vous voyez que la reine est souveraine et que finalement elle ne se plie pas du tout aux impératifs économiques. Et puis on a parlé de la mousseline de coton, de la toile de lin avec la robe en chemise, qui sont des textiles adaptés à la saison d'été, c'est tout à fait évident, mais qu'on ne porte jamais en costume de cour. Voici, pardon, parce que du coup je vous avais prévenu que je ne parlais pas beaucoup des hommes, hein. Bonne foi du plan, aussi un pastel qui est dans les collections du château avec un vêtement, une veste, un habit pardon, orné de fourrure. Et puis vous vous demandez peut-être où sont stockés tous ces vêtements dans le château. Alors déjà tous ces vêtements, ils ne sont pas dans des penderies hein, comme aujourd'hui, mais dans des corbeilles doublées de taffetas vert. On les met dans ces corbeilles pour les apporter jusqu'au souverain. Et ça, c'est vraiment le travail des femmes de la garde-robe, de placer les vêtements dans les corbeilles et de les faire transporter par des garçons. Aujourd'hui, cette trace, elle a quasiment, cette trace des garde-robes, de l'activité de la garde-robe a quasiment disparu à Versailles. La garde-robe aux habits du roi se trouvait au rez-de-chaussée de la cour de marbre, à l'emplacement actuel de la librairie des princes. Donc, vous voyez qu'elle a complètement disparu. On a vu le cabinet doré tout à l'heure, où Marie-Antoinette recevait ses fournisseurs, mais sa garde-robe aux habits, elle non plus, n'est plus visible. Elle se situait dans l'attique de l'aile du Midi. Et voilà pourquoi je vous montre la garde-robe aux habits de Madame de Pompadour. J'espère que vous avez eu l'occasion de visiter l'appartement de Madame de Pompadour et donc d'apercevoir cette garde-robe. Qui nous donne une idée de ces placards qui devaient être sans doute plus grands encore pour le roi et pour la reine, où étaient soigneusement rangées les robes. Toutes disparues aujourd'hui, comme nous l'avons déjà évoqué. Et puis, nous avons parlé des matières, et chaque moment de la vie est associé aussi à des couleurs. Alors, on peut parler du mariage. Le blanc ne s'est imposé véritablement comme couleur du mariage qu'au début du 19e siècle, hein, c'est assez tardif. Mais quelques jeunes filles de la noblesse ont commencé à choisir cette couleur sous le règne de Louis XVI. Ici, vous voyez une jeune mariée qu'on mène à l'hôtel, avec une robe rose, avec des agréments. Donc tout ce que la marchande de mode va rajouter, on appelle ça des agréments blancs. Mais la robe est rose. Et rappelons quand même que pour son mariage en 1770, Marie-Antoinette porte une robe de drap d'argent à panier et le dauphin un costume de drap d'or. Ça tient aussi à leur fonction royale. Hein. Pour ce qui est du deuil, la couleur royale du deuil pour le roi, c'est le violet. Et la reine, elle, porte le deuil en blanc. Donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Et les courtisans, eux aussi, doivent s'associer à certains deuils de cour, en noir et en blanc. Et à chaque fois qu'il y a un deuil, la maison du roi et de la reine doit fournir les habits de deuil à l'ensemble du personnel de la maison. Donc, un travail supplémentaire pour la dame de la tour. Et si aujourd'hui les hommes privilégient les couleurs sombres, ce n'est pas du tout le cas au XVIIIe siècle. Ils portent des couleurs vives, tendres, du bleu, du beige, du rose, du mauve. Et comme pour les mariés en blanc, c'est véritablement au XIXe siècle que le costume masculin a commencé à restreindre considérablement sa palette de couleurs. Donc ici, vous voyez un habit de printemps qui associe de manière assez audacieuse le vert et le rose. Et vous voyez bien que c'est un membre de la noblesse puisqu'il porte l'ordre du Saint-Esprit. Alors toutes ces couleurs, elles portent des noms extrêmement imagés, qui sont parfois liées à l'actualité. Après l'incendie de l'opéra en 1781, il y a une couleur qui s'appelle opéra brûlé. Ouh, attendez, j'ai mieux. Après la naissance du dauphin, la couleur caca dauphin. Et oui, autant apprécier des hommes que des femmes. Je vous laisse imaginer la couleur, je veux dire que je ne sais pas exactement comment elle est. On peut aussi citer les évocateurs boue de Paris, cuisse de nymphébu, ventre de carmélite et puis puce. Alors puce est décliné de mille façons. Vieille puce, jeune puce, ventre de puce et un mot préféré, puce effrayée. Ça laisse vraiment libre cours à l'imagination. Et puis, de manière très flatteuse et séduisante, une robe de cour lilas pouvait se voir qualifiée de robe couleur des yeux du roi. C'est ici cette robe de cour que vous voyez un projet d'Augustin de Saint-Aubin. Cette robe de cour, un très beau dessin, et elle est qualifiée de robe couleur des yeux du roi. Alors, je vous avais promis que j'allais vous parler du costume de cour. Nous y voilà. Ce costume de cour, ce grand habit de cour, plus précisément, c'est le terme plus rigoureux que je dois employer, le grand habit pour les femmes, il a une forme résolument archaïque. Il est tourné vers le passé et il semble véritablement échapper à la mode. Même si, à la fin du XVIIIe siècle, ou plutôt plus précisément à la fin du règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il y a une sorte d'assouplissement de l'étiquette à la cour, en lien, je vous le disais aussi, avec les idées de Jean-Jacques Rousseau. Et certaines robes à la française, ou même des robes à la turque, ont pu être portées à la place du grand habit. Mais pour les fêtes, les cérémonies les plus officielles, c'est toujours le grand habit que les femmes doivent porter. Alors, il est réservé aux dames de qualité qui sont admises à la cour et il comporte trois parties. Vous le voyez ici, porté par Marie-Antoinette. Tout d'abord, vous voyez sur ce détail le corps. Alors le corps, c'est cette partie-là. C'est un corset en réalité qui est très baleiné. Donc les baleines, ce sont ces sortes d'arceaux qui vont rigidifier le corps de manière sans doute extrêmement douloureuse. Il est lacé derrière et il est garni de ce qu'on appelle une pièce d'estomac. Donc en fait, sur mon image, vous ne voyez pas le corps, puisqu'il est dissimulé par cette partie en triangle qui s'appelle la pièce d'estomac, qui le décore. Et ce triangle de textile est épinglé sur le corps et cousu directement sur la personne qui le porte au moment de l'habillage. Donc vous voyez que c'est long, c'est fastidieux et peut-être un peu risqué. Donc ce corps, il est extrêmement rigide, il comprime la respiration, le ventre, il force les femmes à adopter une attitude douloureuse et il provoque de nombreux évanouissements à la cour. Et la marquise de Bombelles en témoigne ainsi à son mari dans une lettre de 1778. « J'ai eu depuis quelques jours des maux d'estomac qui m'ont fait beaucoup souffrir. Je crois qu'un corps que je me suis fait faire y contribue. Comme j'ai été 6 mois sans en porter, j'ai beaucoup de peine à m'y accoutumer. » Vous voyez que ça doit être extrêmement douloureux. Et à ce corps, on accroche des rangs de dentelles qui constituent les manches, vous voyez là, et qu'on appelle des petits bonhommes. Alors, voici le corps, extrêmement rigide, et vous voyez ici la forme de la baleine. Vous retrouvez ici ce corps sur la comtesse de Provence, par Drouet, avec les petits bonhommes, et une pièce d'estomac, donc c'est ça qui est cousu sur le corps pour le découper. Après ce corps vient la jupe, vous voyez un détail ici, et donc tout ce que vous voyez ici en doré, ce sont les fameux ornements qu'a rapporté la marchande de mode. Cette jupe, elle est soutenue par des cerceaux qu'on appelle les paniers, et elle est attachée, c'est pas grave, et donc imaginez qu'elle est attachée au basque du corps, ce sera plus clair comme ça. Voilà, là les basques, ce sont ces petits pans de textile auxquels on attache la jupe. Et cette jupe, elle est extrêmement lourde. Alors ici, vous voyez un détail de la jupe d'un grand habit C'est un fragment de broderie qui est conservé au Museum of London. C'est extrêmement rare et précieux, et ça vous donne une idée de la richesse de ces costumes. Et puis le dernier élément, c'est le bas de robe, qu'on appelle la queue ou la traîne, qui est attachée sur les reins, et que vous voyez ici sur cette gravure par Moreau. En fait, il faut plutôt le deviner, vous voyez que cette traîne, elle apparaît là, derrière la jupe. Alors, je vous parlais de la codification du vêtement, et cet habit, on peut le moduler en fonction du rang de chacune. La longueur de la traîne est ainsi proportionnelle au rang de celle qui porte le grand habit. Comme le rappelle Madame de Genlis dans l'étiquette, les femmes de la reine et celles des princesses de la famille royale faisaient toujours leur service en grand habit. Donc, pendant la cérémonie d'habillage, le matin, les dames, la dame d'honneur, la dame de la tour, doivent être en grand habit. Donc, imaginez que ça doit être très inconfortable. Mais elles ne pouvaient pas porter le bas de robe ou la queue. Donc, elles n'ont pas la traîne, ce qui montre qu'elles restent quand même au service de la famille royale. Donc, ce grand habit, je vous le disais tout à l'heure au début de cette conférence, il est régulièrement porté par la reine et les dames de la cour. Il est réservé aux grandes cérémonies d'étiquette, on ne le porte jamais en ville. Les petites princesses de France, les princesses de la famille royale, le portent pour la première fois lors de leur première communion, de leur confirmation. Et puis, de nouveau, pour les baptêmes, les mariages, les présentations, je vais vous parler des présentations, les réunions de Noël, le jour de l'an, de Pâques, la Pentecôte, les bals de Paris, etc. La présentation, c'est le grand moment pour porter le grand habit à la cour. C'est vraiment au cours de cette cérémonie que le grand habit joue son rôle le plus important. Il y a l'apparence, la manière dont on va porter le grand habit aussi, mais la manière dont on va se déplacer avec, hein, donc l'attitude qu'on va réussir à avoir avec ce grand habit. Qu'est-ce que la présentation ? Toutes les dames nobles qui souhaitaient assister à Versailles aux différents événements ou à ces cérémonies importantes que je vous ai énumérées doivent se plier au rite de la présentation. Elles doivent apporter des preuves de leur noblesse. Peut-être que vous connaissez l'épisode rocambolesque de la présentation de Madame du Barry, qui essaye de rassembler des preuves de sa noblesse de manière plus ou moins juste. Et ensuite, elles doivent trouver une marraine qui acceptera de les présenter au couple royal. Le jour de la présentation, la dame présentée porte pour la première fois son grand habit. Ce grand habit doit être commandé spécialement pour la présentation, et là encore on parlait des couleurs tout à l'heure, et bien il doit être noir. Tous les agréments en dentelle blanche, le jupon et le corps ornés de pompons en dentelle d'or. C'est le même dessinateur qui a fait la robe couleur des yeux du roi, qui a fait un projet de robe de présentation avec la robe est noire, et les agréments sont tous dorés. Donc c'est extrêmement séduisant, extrêmement riche, mais c'est une robe qu'on porte une fois dans sa vie. Donc c'est quand même extrêmement coûteux d'être présenté. Et puis, dès le lendemain, les dames doivent se représenter à la cour, cette fois avec un autre habit, en étoffe de couleur ou d'or, tout simplement. En dehors de la présentation, le grand habit peut s'orner de nombreuses couleurs, les teintes à la mode, rouge cerise, vert pomme, nacara, puce. Alors, ce grand habit, donc on en a parlé, il est orné par la marchande de mode. Et il se porte avec des diamants. Il se porte forcément avec des diamants. Alors, on a déjà compris que ce grand habit allait nous coûter très très cher. Et il faut ajouter des diamants. Le maximum de diamants. Et alors en réalité, toute la famille et toutes les amies, toutes les amies de la débutante sont sollicitées pour prêter leurs diamants. Et les dames les plus en faveur arrivent même à obtenir le prêt de diamants de la reine elle-même. Un prêt extrêmement fréquent. Madame de Genlis, toujours dans l'étiquette, raconte que Madame Victoire prêtait continuellement et pendant des mois entiers ses pierreries de couleur à Madame de Donissan, la fille de sa dame d'honneur. Il m'est arrivé, étant à Versailles, de porter ces pierreries que Madame Denisson me prêtait pour aller faire ma cour à Madame Victoire, qui me voyait coiffée avec ses aigrettes de diamants prêtées par une autre et le trouvait tout simple. Donc vous voyez qu'il y a tout un trafic de diamants au sein de la cour, puisque bien évidemment, c'est impossible de rassembler autant de diamants pour chacune. Alors ici, vous voyez Marie-Antoinette Dauphine par Drouet, c'est un portrait qui est conservé à Londres Victoria and Albert Museum. un collier de diamants à ras du cou, rehaussé par un nœud. Et c'est un collier qui apparaît très précisément décrit dans l'inventaire des bijoux de la Dauphine, daté de 1770, quand elle est encore à Vienne, avant son départ de Vienne. Et sur ce portrait de Marie-Antoinette par Gautier d'Agoty, en 1775, c'est le portrait qu'il a exécuté, qui est lié à l'image de Gautier de la reine dans sa chambre qu'on a vue tout à l'heure, où il se montre en fait en train de peindre ce portrait, même s'il se montre en train de peindre un portrait ovale et que celui-ci est rectangulaire. Et donc si on s'approche, on reconnaît tous les diamants que portait la reine et qui sont toujours décrits dans cet inventaire de 1770. Une aigrette de diamants qui devait fixer une plume d'autruche sur sa montagne de cheveux. Donc une aigrette très précisément décrite, hein, que vous voyez ici. Et puis cette broche, cet agrafe ici, et ces petits pendants de diamants ici sont également très précisément décrits dans l'inventaire de 1770 des diamants de la Dauphine. Donc vous voyez une représentation très fidèle, même si ça nous semble aujourd'hui incroyablement fastueux. Mais la tenue et les diamants ne suffisent pas, comme je vous le disais, à assurer le succès d'une présentation. Il faut aussi savoir porter ce grand habit. Et ça suppose, outre le fait de souffrir le port du corps, la baleine, de prendre des leçons de révérence auprès d'un maître à danser. Et vous imaginez bien qu'il est extrêmement difficile de se déplacer avec grâce et légèreté, avec cette très encombrante jupe, car il faut notamment faire 3 révérences pour aller saluer la reine, et puis ça se corse, 3 révérences en reculant pour quitter la reine. Donc il faut s'entraîner plusieurs jours à l'avance pour supporter cette torture du corps à baleine et prendre des leçons de révérence. Et toujours la... pas toujours, je ne crois pas l'avoir encore cité, la baronne d'Oberkirch en 1784 raconte sa présentation et elle explique: il faut se rappeler les leçons qu'on a prises pour marcher à reculons, pour donner un coup de pied dans sa queue, donc sa traîne, afin de ne point embarrasser ses mules et de ne pas tomber, ce qui serait le comble de l'insolence et de la désolation. Je fis les 3 révérences, une à la porte, une seconde au milieu, une troisième près de la reine, qui se leva pour saluer. J'ôtai mon gant droit et je fis la démonstration de baiser le bas de la robe, donc il faut faire semblant de baiser le bas de la robe. La reine retira sa jupe avec beaucoup de grâce par un coup d'éventail. La reine fait toujours ça, hein, c'est vraiment codifié, c'est toujours la même manière, pour m'empêcher de la prendre. Elles échangent quelques mots, sa majesté fit une inclination et nous nous retirâmes à reculons après les 3 révérences d'adieu. Donc vous voyez une cérémonie extrêmement codifiée et fastidieuse. Alors, comme je vois que je vais devoir accélérer, je vous parle très rapidement de la robe à la française qu'on voit ici sur ce portrait par Roseline, un portrait de l'architecte Perronet et de sa femme, qui date de 1759, donc on est beaucoup plus tôt, mais la robe à la française a finalement peu évolué. Vous voyez qu'elle a également un corps, un manteau de robe, un petit peu de textile quand même. Cette robe à la française, elle se caractérise par ses plis. Ces plis doubles qui sont dans le dos et qu'on connaît parfois sous le nom de plis vateau. C'est totalement usurpé comme appellation, c'est vrai qu'on les connaît beaucoup comme ça, puisque vateau a beaucoup représenté ses robes. Donc voilà, ces dessins, ces tableaux de vateau ont donné leur nom à cette robe. Et cette robe, elle se rapproche du grand habit de cour, mais elle est plus souple, elle n'a pas de traîne. En réalité, on peut considérer que la traîne est intégrée à la robe, au manteau de robe, avec ses 2 plis. Et à partir du milieu des années 1780, petit à petit, chaque fois que c'est possible, elle remplace le grand habit. Par exemple, pour les voyages à Fontainebleau ou à Marly, on ne porte jamais le grand habit, mais toujours la robe à la française. Et puis je vais finir très rapidement avec le costume de cour pour les hommes. Alors, messieurs, comment vous seriez-vous habillé à Versailles sous Louis XVI Marie-Antoinette? Vous auriez porté pour des cérémonies ce grand habit, ou cet habit à la française. Cet habit à la française, comme pour les femmes, il est composé de 3 parties. D'abord, la culotte, ou le pantalon, qui est assorti à l'habit. L'habit, c'est cette partie, hein, on appellerait ça aujourd'hui la veste. La redingote. Depuis 1745, la culotte ou le pantalon descend sous le genou. Il s'attache par une patte sous laquelle sont glissés les bas. Avec cet habit, on porte un gilet sans manches, qui est souvent, dans les années 1780, le support d'ornements plus extravagants les uns que les autres. À partir des années 1780, ce gilet devient blanc et il est souvent très joliment brodé. Je vous montre un détail ici d'un gilet au musée Galliera. Sa basque, c'est-à-dire cette partie ici, avec les manches, est de plus en plus courte, voire inexistante. Et puis cet habit donc s'ouvre sur ce gilet ou cette veste, supporte l'habit qui s'ouvre avec des pans qui s'écartent de plus en plus vers l'arrière, un col droit qui serre un peu le cou et des manches étroites. Comme pour les femmes, il est somptueusement orné de broderies. On le porte pour les habits les plus prestigieuses. Et on peut, en réalité, selon ces broderies, l'adapter aux différentes cérémonies. Le comte d'Ezec, qui est au sujet des bals parés, qui sont donc des bals à la cour réservés aux personnes qui ont été présentées, raconte que les hommes portaient des habits noirs brodés en jais. Le reflet des lumières sur cette broderie rendait le costume très brillant. On a du mal à imaginer aujourd'hui des hommes qui porteraient des costumes entièrement brodés de pierreries. Et donc, pour les cérémonies les plus prestigieuses, ces habits sont coupés dans une étoffe riche, une étoffe d'or ou d'argent. On a dit tout à l'heure que pour son mariage, Louis XVI portait un habit brodé d'or. Les habits les plus somptueux sont brodés sur toutes les tailles, c'est-à-dire tous les côtés, toutes les parties sont brodées, ou seulement sur les bords pour les demi-galas. Donc je termine avec ces images de broderie pour les hommes. Donc on utilise volontiers des paillettes, des paillons, qui permettent de faire briller les costumes. Et voilà, finalement, j'ai réussi à vous dire presque tout. Et comme vous avez sans doute des questions, je vous écoute. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé, qui sont évoquées dans mon livre, beaucoup d'autres choses dont vous avez sans doute envie de parler, donc n'hésitez pas. Oui ? Alors, il y a une chemise, mais on ne la voit pas. En fait, au début du 19e siècle, on porte des sortes de manchettes, hein, c'est pas le bon terme, mais qui se fixent en fait dans la manche et qui disparaissent à la fin du 19e siècle. Donc, ces agréments pour les hommes disparaissent, mais il y a bien sûr toujours du linge de corps. Je n'en ai pas parlé pour les femmes, mais il y a aussi une chemise sous le corps. Pour le grand habit, je pense que oui, puisque comme on en commande 12 à chaque fois, ça semble suivre vraiment le rythme des fêtes. Donc je pense qu'on ne remet pas le grand habit. Et ça explique aussi pourquoi c'est si coûteux. Vous avez vu que c'est extrêmement coûteux. Bon, je ne vous ai pas donné de... Comme du coup, j'ai accéléré tout à l'heure sur mes prix. Oui, des chiffres. C'est pas forcément un chiffre pour un grand habit, mais Madame Meloff, qui est une concurrente de Rose Bertin, a fait une robe de taffetas blanc et garniture de tulle noire, avec trois mantelets de gaze quand même, pour la princesse de Chimay en 1787. Donc en fait, elle a dû acheter au tailleur la robe et ensuite elle l'a ornée et elle la vend à la princesse de Chimay, 246 livres. Ça ne semble pas si cher que ça. Je pense que le grand habit coûte beaucoup plus cher. Monsieur ?
Oui, c'est pour la culotte, vous avez dit que c'est à partir de 1745, et ce restait en dessous du genou.
Oui.
Donc ça veut dire avant, c'était en
dessous. Normalement, oui. Alors, je n'ai pas
de passion en tête.
Je ne vais pas vous dire de bêtises. Là, on est en 1759, donc effectivement, ça appuie mon argument. Je connais moins la mode de la première moitié du 18e, donc je ne vais pas vous dire de bêtises.
Mais là, c'est une date précise de 1745.
Non, c'est pas si précis que ça, en fait. C'est, on va dire, première moitié du 18e, deuxième moitié du 18e.
D'accord.
Donc, pourquoi
ça se
porte? Bah, a priori, oui. Donc maintenant, vous jetez le doute en moi, donc je vais m'empresser de vérifier. Mais je pense que... Oui, monsieur. Je ne crois pas. Ça ne me dit rien du tout. Non, je pense qu'au contraire, il y a vraiment une liberté de couleur. Et vous avez vu aussi qu'il y a l'idée qu'on peut faire des harmonies totalement invraisemblables, on l'a vu avec la robe à la turque. Ou même là, en fait, en vert et violet, c'est très heureux. Hein. Vert et rose. Sachant que quand même, je mets un bémol sur ces gravures, elles sont gravées, puis elles sont colorées ensuite. Et on en voit différentes versions, différentes couleurs. Donc c'est aussi un peu lié à l'imagination de celui qui va mettre la couleur. Nous voilà ici, hein, vert et rose. Il y a beaucoup d'audace, mais je ne crois pas qu'il y ait de couleur interdite.
Est-ce qu'on la veste ?
Alors, pour des vêtements qui ne se portent pas, non, on ne les lave pas. Ce qu'on lave, effectivement, c'est le linge de corps, très soigneusement. Je ne vous en ai pas parlé non plus, on reprise certains vêtements, notamment pour le roi. Je ne vous ai pas parlé de l'habillement du roi, mais comme vous savez que Louis XVI grossit. Il est assez économe, et bien il y a un tailleur à Versailles qui est bien identifié parmi ses fournisseurs qui a pour charge d'élargir petit à petit les costumes qu'il reporte régulièrement. Pareil pour Madame Elisabeth, elle était extrêmement économe. Donc elle n'a pas renouvelé sa garde-robe pendant 5 ans, de 1785 à 1790. Donc c'est vrai que je me disais qu'on ne reporte pas forcément les mêmes robes. Madame Elisabeth, si, forcément, par la force des choses. Et on sait qu'elle a seulement renouvelé son linge, ses dentelles, ses accessoires. Donc ce qui était le plus souvent lavé, j'imagine, et qui s'usait le plus. C'est très important, comme on parlait du linge, que le linge soit le plus blanc possible. Il y a vraiment quand même cette idée de propreté qui est essentielle. Je pense pas qu'il y ait de... Oui, mais à part pour le deuil, il y a des couleurs vraiment qui sont réservées à la famille royale, comme on l'a vu, hein, le violet pour le roi, le blanc pour la reine, et du coup le blanc et le gris pour le reste de la maison royale. Il n'y a pas de couleur qui serait interdite aux autres personnes de la cour.
Interdite, oui. En même temps.
Oui, mais disons que je vois mal comment on pourrait savoir ce que le couple royal va porter, quelle couleur. Après, on a parlé de ces costumes extrêmement précieux, brodés d'or et d'argent. Ça, c'est évident que le commun des mortels ne s'habille pas comme ça. Donc finalement, dans les plus grandes cérémonies, on peut imaginer que si le roi et la reine portent du drap d'or et d'argent, ils sont seuls à le faire. Oui, ça c'est vraiment très intéressant de vous poser la question parce que ça m'intéresse aussi énormément. Déjà c'est très étonnant parce qu'on ne voit pas les femmes enceintes, elles ne sont pas représentées sur les tableaux, donc il y a vraiment un problème d'iconographie, elles ne semblent pas être enceintes. Mais quand même, c'est Marie-Antoinette en fait qui a libéré en quelque sorte... Le corps de la femme lors de ses grossesses, puis elle était obligée de s'adapter, elle a porté des robes à la turque. Donc je pense que forcément elle porte un corset qui est adapté, qui est élargi, et ça on en connaît des exemples qui sont conservés. Et cette robe à la turque, pardon parce que mon image à l'écran n'est pas très représentative, il faudrait la voir de face. Elle s'élargit en fait au niveau de la taille et elle se porte souvent, ce n'est pas le cas sur mon image non plus, elle se porte souvent avec une sorte de ceinture, disons plutôt une sorte d'écharpe qui est nouée autour de la taille et qui permet en fait d'élargir l'écharpe et tout en restant relativement élégante. Donc Marie-Antoinette, pendant ses grossesses, a privilégier la robe à la turque. Et puisqu'on parle de la reine enceinte, peut-être un mot sur les coiffures, j'en ai pas du tout parlé non plus. Ça vous intéresse? Alors, vous voyez notre Marie-Antoinette coiffée à l'enfant. Donc, vous savez peut-être qu'après la naissance de ses enfants, Marie-Antoinette a souffert d'alopécie, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses cheveux. Et son fidèle Léonard, donc le coiffeur fétiche de Marie-Antoinette, a eu l'idée de lui couper les cheveux juste sous les oreilles. Donc, vous voyez qu'elle a les cheveux coupés ici, bouffants, avec seulement quelques mèches. La chance de Marie-Antoinette, mais c'est peut-être aussi parce que c'est la reine, hein, c'est que finalement tout le monde a fait pareil. La comtesse de Provence, la princesse d'Amballe, elles se sont toutes coupées les cheveux pareil, Madame Elisabeth aussi. Donc il y a vraiment eu une mode qui était en fait à l'origine une coiffure fonctionnelle pour cacher cette perte de cheveux de la reine qui a été adoptée par toutes les femmes de la cour et qui permet très facilement de dater les tableaux du début des années 1780. Quand vous voyez une coiffure comme ça, il n'y a aucun doute. Mais oui, mais voilà, c'est sa chance. Oui, ah, pardon.
Les chaussures.
Chaussures, c'est pas vrai, j'en ai pas parlé. Alors, ça fait aussi, mais très bien, parce que ça fait aussi écho à cette question sur la grossesse de la reine. Les chaussures, alors vous en verrez quelques exemples dans mon livre, mais je n'ai pas d'image à vous montrer, peut-être la première, si vous très vite. Voilà. Je vous ai alléché avec les chaussures, je n'en ai pas parlé. Voilà. Ce sont des chaussures ici, relativement luxueuses, hein, même si la broderie a terni, c'était sans doute une broderie d'argent. Au début du siècle, les talons sont assez hauts, assez élevés, et pendant sa grossesse, comme de nombreuses femmes, Marie-Antoinette souffre des jambes, elle est prise plus ou moins dans son corps, même s'il est adapté, et elle a donc fait baisser la hauteur des talons. À tel point que, tout à l'heure, je vous citais la baronne d'Oberkirch qui a peur de se prendre les pieds dans ses mules. Donc on a vraiment des tout petits talons à la fin du XVIIIe siècle. Et tout ça participe de cet esprit, pas de libération de la femme, exagéré, mais de simplification des codes. On recherche quelque chose de confortable. Aujourd'hui, ça nous semble pas du tout confortable, mais c'était déjà un progrès énorme de pouvoir porter certaines robes sans corset, sans corps donc, comme les robes en chemise, d'avoir des chaussures avec des talons moins élevés, et puis des matières sans doute plus agréables comme le coton. Ouais, c'est extrêmement lourd. Oui, c'est extrêmement lourd. Alors, j'ai des citations formidables là-dessus. J'essaie de les retrouver pour vous les dire. Puisque les dames qui sont présentées se plaignent en fait de devoir porter ce bas de robe qui est extrêmement lourd. Je pense que cette citation, je ne l'ai pas mise là, je l'ai dans mon livre. Mais donc, pardon de ne pas pouvoir vous la lire, mais oui, c'est extrêmement pesant, c'est fatigant, et toutes ces dames disent que c'est une épreuve, parce que déjà elles ont le corps comprimé, le buste comprimé par le corps, c'est peut-être pas très clair, et le poids de la robe, la traîne qui va derrière, les mules, mais ce sont des mules, donc elles ne sont pas attachées aux pieds. Donc, oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais.
Les chaussures des messieurs,
Elles sont assez semblables à celles des femmes en fait. Bon, c'est comme les vêtements, on en conserve très peu. Elles ont aussi des talons. En revanche, elles sont parfois lacées. Voilà. Mais elles ont des talons aussi. Elles ont comment dire, des accessoires. Elles ont souvent ce qu'on appelle des mantelets. Peut-être, on ne voit pas très bien, hein, mais là, vous voyez Rose Bertin, elle a une sorte de fichu jaune, en fait, c'est un mantelet. On le voit souvent sur les portraits.
Là, vous voyez qu'elles sont en robe à la française, en fait. Ça, c'est pas juste. Bon, elles ont des... Voilà, des... Donc ici, ce portrait de Madame de Polignac, vous voyez la partie noire, c'est une sorte de mantelet de taffetas, en fait, hein, qui est comme une sorte de fichu. Pardon, hein, c'est pas idéal de vous montrer ça. Qui permet de se couvrir. Et puis, j'ai sous les yeux un témoignage de Madame Elisabeth, à qui un témoignage de la marquise de Pombelle, à qui Madame Elisabeth, donc la sœur de Louis XVI, offre un grand habit. Et puis, elle conclut son récit en disant que Madame Elisabeth lui a demandé de lui donner sa garniture de martre, qu'elle se chargera de la faire arranger pour le jour de bal. Donc, cette robe, elle peut aussi, en hiver, se porter avec, imagine, un petit manteau, une sorte de veste courte sur les épaules. Oui, oui, c'est en fourrure. On a vu tout à l'heure que la fourrure pouvait permettre d'orner les robes, hein, l'hiver, mais elle peut aussi se porter comme tel.
On voit que les modèles de robes changent. Comment est-ce que c'est fait l'innovation, le fait qu'on va changer la type de robe, de tissu?
Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu mystérieux. Vous avez raison, il y a vraiment des innovations. Dans les années 1780, c'est le blanc. Pour moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est très lié à ces idées des philosophes, du retour à la nature, de la simplicité. Dans ces années, on voit aussi, c'est ce qu'on voyait bien dans cette vitrine, des motifs floraux. Dans la moitié du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, on voit des motifs floraux, mais assez gros, très présents sur les robes. Et puis savoir, ces fleurs, elles se font de plus en plus discrètes, en broderie très délicate, peut-être comme le gilet d'homme qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, à la fin des années 1780, années 1790, nous avons... Pardon de revenir en arrière. Voilà, sur la Gazette d'Antoinette, ces petites fleurs. Déjà des rayures. Et début des années 1790, la mode des rayures. Donc il y a vraiment des tendances, effectivement. Ensuite, je suis bien incapable de vous dire comment elles sont lancées.
C'est pas les gros ça.
Donc voilà, je pense qu'il y a l'air du temps. Elles sont reprises par les gazettes. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Effectivement, les marchands. Je pense que ça va sans doute pas beaucoup changé. Oui, et aussi, effectivement, on en a parlé, hein, la reine comme lanceuse de tendance, mais il faut quand même modérer un petit peu ça, parce que je pense qu'elle s'inscrit en fait dans un mouvement plus général. Elle n'est pas au cœur des tendances, puisqu'elle est loin quand même de la capitale, même si elle rencontre ses fournisseurs en direct. Finalement, elle fait partie de son époque. Hein. Donc on sent qu'elle aime la mode, que ça lui plaît, mais voilà, c'est difficile de savoir...
La mode avec les nouveautés que les gens qui viennent de l'Arcane.
Ah voilà, ça fait partie vraiment des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est elle qui va dire à Rose Bertin j'ai envie de ça ou pas? Finalement, elle vit quand même beaucoup en vase clos, cette reine. Ou bien est-ce que c'est parce qu'elle adopte des choses qu'on lui présente que ça lance des tendances? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est vrai.
En fait, ils adoptent énormément
au pays,
tous ces amis.
Ah ben oui, non! Oui, non, parce qu'on a vu que les soyeux lyonnais se plaignent. Ils sont ravis quand Vigée Lebrun remplace son tableau au salon de 1783 par une robe de soie. Ça leur fait très plaisir. Je vous ai vu, monsieur. On a parlé de la soie. Il y a aussi des plumassiers qui se plaignent parce que avec cette fameuse coiffure à l'enfant, il n'y a plus de plumes dans les cheveux. Et donc les plumassiers demandent à ce que la reine recommence à porter des coiffures ornées de plumes. Vous voyez, donc finalement, ça aurait pu être encore plus de dépenses, ou elle aurait pu soutenir davantage les talents français, mais ça n'a pas entré en considération. Monsieur. Oui, c'est vraiment un mouvement général. C'est ce qu'on voyait bien dans l'exposition de 2008 à Versailles, un faste de cour. Il y a des robes... qui sont des robes d'enfants en réalité, hein, qui sont des robes en chemise qu'on retrouve à la cour de Suède, des habits très similaires. Ensuite, on peut quand même dire qu'il y a une mode anglaise qui influence beaucoup la France, j'en ai pas parlé, j'ai cité le mot d'anglomanie très rapidement. Cette mode anglaise, elle est considérée comme très confortable parce qu'on l'appelle sportive, donc ça aussi, ça nous semble étonnant. Mais c'est, imaginez des redingotes, plus des vêtements qu'on imaginerait peut-être pour la chasse ou pour la promenade en forêt, qui sont adaptés. Donc, y a quand même une influence de l'Angleterre vers la France, mais finalement, ces modèles sont diffusés. Et on sait qu'ils sont diffusés très précisément grâce aux poupées. Donc des poupées qui sont habillées avec des petites robes et qui sont envoyées dans toutes les cours d'Europe par les dames ou directement parfois par les marchandes. Et là encore, la marquise de Bombay en témoigne de manière très savoureuse dans la correspondance de la marquise de Bombay, puisque son mari lui demande régulièrement de lui envoyer des échantillons de tissus pour le montrer aux dames qui sont avec lui en Allemagne. Il est ambassadeur en Allemagne et les dames veulent absolument savoir quelles sont les couleurs, vous vous souvenez, hein, puissent effrayer, hein. On aimerait bien savoir nous aussi. Et donc les dames lui demandent de recevoir des échantillons de tissus pour connaître les couleurs à la mode.
Cette fameuse couleur,
je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est marron, gris? Aujourd'hui c'est comme taupe en fait, taupe, on ne sait pas trop ce que c'est comme couleur, mais c'est une couleur à la mode.
Dans quelle mesure se va retomber dans la population?
Pardon?
Comment se va retomber sur la population courante, j'allais dire? C'est en ce moment.
Alors il y a des. Bon, le grand habit échappe complètement à la mode, hein, bien évidemment. La robe à la française est de moins en moins portée. Ce sont des vêtements dont on a parlé, ce sont des vêtements qui sont plutôt réservés à la noblesse. La robe en chemise est plus. En fait, les robes de la dernière catégorie, la catégorie intime, sont celles qui pénètrent le plus largement dans la population. Donc la polonaise, la robe à la turque et la robe en chemise ont été très largement portées dans beaucoup de milieux, mais ça reste quand même à minima des milieux bourgeois. Oui, tout à fait. Oui.
Les tissus changent-ils selon les saisons quand même?
Oui. Oui, oui, j'en ai parlé un petit peu, mais peut-être que je suis passée trop vite. Voilà, j'ai parlé du velours et de la fourrure pour l'hiver, du satin et du taffeta pour le printemps, du coton et du lin pour l'été. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est complètement rythmé. Et l'été, c'est Pâques. Donc à Pâques, on change de saison, on passe dans l'idée qu'on est à l'été, il y a vraiment de rupture à ce moment-là.
Est-ce qu'on était sûr d'être
Donc on en a parlé tout à l'heure avec les mantelets, il y a des sortes de capes aussi. Après, il faut quand même imaginer qu'on a la chemise, plus le corps, s'il y a un corps, plus la robe. Je pense qu'on a pas froid. Hein. Et puis, ça c'est autre chose, hein, c'est pas le sujet de ma conférence, mais il y a aussi une différence de perception de...
Des températures,
de même que au XVIIIe siècle, on vit dans l'obscurité, on n'a pas l'habitude de ces lumières, hein, on vit dans d'autres ambiances, et bien je pense qu'on est aussi beaucoup plus accoutumé au froid qu'aujourd'hui.
Je pense que globalement, il fait
libre
avec 16 ou 17 degrés à l'intérieur,
pas
beaucoup plus.
Alors, aujourd'hui, c'est pas du tout la même manière de percevoir les choses. Je crois qu'on va devoir arrêter les questions parce que nous sommes obligés de quitter la salle.
Merci.
Merci, madame.